dans un village au loin, tu vois, et puis et je finis le chemin carrément en courant parce que j'étais pas assez équipé, j'avais vraiment trop froid, quoi. Je sentais mes doigts vraiment qui, bah, je les sentais plus justement.
Salut tout le monde, aujourd'hui on rencontre un marcheur. Il a marché pendant 14 mois seul, 6000 km parcourus à travers 10 pays, depuis le Puy-en-Velay jusqu'à Jérusalem. Entre aventure et mésaventure, Alexandre voulait absolument découvrir l'être humain et se découvrir lui-même.
La Fabrique Audio et TV5 Monde présentent Les Aventuriers. Les Aventuriers, à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site Voyage de TV5 Monde, voyage.tv5monde.com. Et pour plus de podcasts ou pour devenir sponsor des aventuriers, lafabriqueaudio.com.
Salut Alexandre.
Salut Florent.
D'où est né ce projet de périple entre le Puy-en-Velay et Jérusalem ?
Eh bien écoute, ça a été une recherche intérieure, j'ai voulu entamer mon chemin spirituel en marchant. Donc j'avais commencé un petit peu avant, j'avais marché à Compostelle et à Fatima, et je me suis dit, pourquoi pas pousser l'expérience un peu plus loin, pousser la recherche encore plus loin, aller à la rencontre des gens et de moi-même, et j'ai décidé de partir marcher à Jérusalem, avec l'idée en tête de ne pas rentrer tant que je n'étais pas arrivé.
On parle de Jérusalem, est-ce qu'il y avait un objectif religieux dans ta démarche, ou est-ce que c'était un autre objectif ?
Alors, j'ai effleuré les religions, évidemment, pour essayer de comprendre l'être humain, comprendre le monde et me comprendre moi-même. Donc, j'étais beaucoup au contact et des prêtres et des imams sur mon chemin, dépendamment du pays. Mais de base, il n'y avait pas d'objectif religieux. Il y avait vraiment l'objectif de se comprendre, d'apprendre et de se découvrir. Après, j'ai beaucoup été en contact avec la spiritualité. Donc, les religions en font partie aussi. Mais à premier abord, c'était plutôt une marche laïque et de recherche intérieure plus que religieuse.
Tu démarres donc en France, au Puy-en-Velay, tu arrives, on l'a entendu, à Jérusalem. Entre-temps, il se passe quoi sur ces 6000 kilomètres ?
Alors, entre-temps, il se passe 14 mois. Donc, j'ai fait une dizaine de pays. Donc, je suis remonté à Genève, par le chemin de Compostelle, tout simplement, à l'envers. Ensuite, j'ai traversé la Suisse. Pour arriver à la frontière avec l'Autriche, j'ai traversé l'Autriche, d'ouest en est, pour arriver à Budapest en Hongrie. Donc je suis arrivé jusque là-bas. Ensuite j'ai pris la direction du sud, donc là j'ai fait la Serbie, le Kosovo, la Macédoine du Nord, la Grèce pour rejoindre la mer à Thessaloniki, et ensuite je suis reparti en direction de l'est, pour traverser la Turquie. J'ai mis 5 mois à traverser la Turquie. Ensuite, je suis arrivé avec la frontière avec la Syrie. Là, j'ai eu quelques soucis. J'ai pas eu des soucis, mais en tout cas, je pouvais pas continuer plus loin. Donc, j'ai pris un avion pour rejoindre la Jordanie. Et une fois que j'ai été en Jordanie, à Amman, je suis remonté à la frontière syrienne. Et de là, j'ai traversé la Jordanie et pour arriver en Palestine. Et enfin, en Israël, à Jérusalem. Voilà.
Tu marches sur 6000 kilomètres. Tu t'arrêtes où le soir ? Est-ce que tu as une tente avec toi ou est-ce que tu es chez l'habitant ?
Chaque jour était vraiment différent. Je suis parti avec une tente, donc j'ai eu ma tente jusqu'à Budapest, pendant les 4-5 premiers mois. Ensuite, je l'ai renvoyée à la maison, voyant bien que je m'en servais pas beaucoup, surtout que l'hiver arrivait. Donc, Budapest, j'étais en octobre, novembre, donc j'ai bien compris que j'allais pas dormir sous la tente encore longtemps. Et au final, je m'en servais pas beaucoup de cette tente parce que, comme je te disais, j'étais vraiment à la rencontre des gens, donc les gens m'invitaient, je dormais dans les églises. Ensuite, en Turquie, je dormais dans les mosquées, tu vois, ou même chez les gens. J'étais beaucoup invité, beaucoup nourri, beaucoup hébergé. Et ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens. Donc, chaque soir était différent. Et puis, c'était aussi une aventure humaine, donc à la rencontre des autres. Tous les soirs, on essayait de se débrouiller un petit peu pour aller à la rencontre des autres et attendre le sauveur du soir. Voilà.
Et comment t'allais à la rencontre des autres ? Est-ce que ça se passait en allant dans des petits centres de ville ? Est-ce que tu tapais à la porte des gens ? Comment tu faisais ?
Ouais, c'est assez marrant parce que ça a aussi fait beaucoup partie de mon chemin intérieur, d'avoir confiance. Et je pense que c'est ça un petit peu ce que ça m'a apporté, la marche, c'est d'avoir confiance en ce qui va se passer. Parce que c'est vrai que quand on part le matin, qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va dormir, mais toute la journée, on est un peu stressé, on ressasse, on se dit « mais qu'est-ce qui va se passer ce soir ?» Et on se rend compte que ça va toujours bien se passer, en tout cas ça s'est toujours bien passé. Donc essayer de garder cette confiance et donc aussi garder cette ouverture à l'autre. Et donc au début, on n'ose pas trop, on essaye de rencontrer quelqu'un dans la rue et puis petit à petit, ça dépendait vraiment, c'était la bonne rencontre au bon moment, tu vois, la personne qui te parle. En fait, faut se laisser guider, faut attendre. Et il y a la personne qui vient te voir naturellement, ou alors la rencontre se fait naturellement. Et si c'est plus compliqué, alors là, faut aller toquer aux portes. Et là, ça demande encore une fois une sortie de sa zone de confort pour aller vraiment toquer à une porte. Voilà.
Alors, le voyage démarre donc par la France et puis on arrive rapidement en Suisse. On y est pendant 10 jours. Là, les premières douleurs aux pieds se font sentir.
Après à peu près un mois de marche ou un peu plus, ouais, j'ai dû faire 3 semaines en France et après quelques jours en Suisse, le début de mon chemin était très douloureux physiquement. Ouais. Donc, j'ai dû m'arrêter pendant 10 jours en Suisse dans un camping.
Et là, il va y avoir une rencontre en Suisse qui va être une rencontre marquante dans ton périple.
Voilà, exactement. Bah, c'était vraiment une des premières rencontres qui m'a vraiment, où je me suis senti accompagné sur le chemin. Donc, c'est Anne-Sophie, une saisonnière suisse qui habitait dans ce camping. Et donc, moi, j'avais affreusement mal aux pieds. Il fallait que je me repose. Mais la Suisse, c'est quand même très, très cher. Donc, pas s'arrêter trop longtemps en Suisse non plus. Et donc j'étais dans ce camping et elle m'a hébergé pendant 10 jours dans sa caravane. Et ça, c'était vraiment cool de pouvoir se ressourcer, reprendre des forces. Et voilà, et quand on rencontre quelqu'un, au bout de 5 minutes, elle t'invite à passer 10 jours dans sa caravane. Carrément, elle part en vacances, elle te laisse sa caravane. Bah, c'est cool, tu te dis, bah, l'être humain, il a cette faculté-là d'être ouvert à l'autre et de pouvoir s'entraider, quoi, tu vois.
T'as encore des contacts avec Anne-Sophie qui t'a laissé sa caravane ?
Ouais, alors de temps en temps, on s'écrit. De moins en moins, parce que le temps fait qu'on... La distance aussi, mais on est resté longtemps en contact. Ouais.
Direction la Hongrie, qui est un pays relativement plat.
Ça, c'est clair, ouais. J'appelle ça le plat pays, ouais, parce que la Hongrie, c'est un grand pays avec très peu d'habitants et c'est tout plat.
Tu as connu là la solitude, pas beaucoup d'habitants effectivement croisés sur ta route, le froid également qui ne t'a pas épargné. Là, on était à quelle époque ?
Là, ça devait être début de l'hiver, ouais, octobre-novembre.
Ouais.
C'est vrai que quand tout va bien, quand c'est l'été, qu'il fait beau, c'est cool. Et quand la difficulté vraiment commence à arriver, vraiment c'est là où le pèlerinage pour moi a commencé. Hein, c'est à partir de la Hongrie finalement, parce que petit à petit j'étais de plus en plus seul. J'étais dans des pays de plus en plus étrangers, avec une culture de plus en plus lointaine de celle que je connais. Et donc là finalement on finit par se sentir assez seul. On finit par se sentir assez démoralisé et même... on doit aller chercher ses ressources vraiment en profondeur. Une journée particulière qui m'a marqué en plus de ça, quand j'y pense, en Hongrie, j'ai dû faire 30 km tout plat, sans croiser personne en ligne droite. Tu vois, donc autant te dire que tu traverses. Bon, c'est pas un désert entier, hein, ça reste lors d'une journée, mais t'es quand même, tu regardes devant, tu vois pas le bout du chemin, tu regardes derrière, tu vois pas le bout du chemin, il y a personne, quoi, tu vois. Et ça pendant 30 kilomètres. Et ben écoute, je suis passé par plusieurs phases assez étranges d'euphorie, de remise en question, tu vois. Il y avait différentes étapes de l'être humain, tu vois, où tu te sens bien, tu te sens pas bien, puis tu ressors de l'eau, tu vois. Et puis finalement, tu vois le bout du tunnel et là, t'es content de toi, tu vois. T'as accompli quelque chose de sympa, quoi.
Le froid est donc arrivé, tu commences à le ressentir. Est-ce que tu es parti bien couvert ?
Bah écoute, je suis parti pas bien couvert, non, mais je me suis un petit peu couvert par la suite. Mais j'ai mis du temps à m'équiper correctement, ouais.
Donc à petit, c'est sur ton chemin que tu allais dans des magasins pour te couvrir et acheter les équipements nécessaires ?
Ouais, exactement. C'était ça, soit j'allais dans les magasins, je me rappelle une fois en Grèce, parce qu'en Grèce j'étais là, c'était carrément en plein hiver aussi, il faisait très froid, c'est un copain qui m'a filé son manteau. C'était au gré des rencontres, au gré des magasins, une paire de gants par-ci, une paire de chaussettes par-là, un legging en plus, tu vois. Après, tout en sachant que plus on se couvre et si un jour il se remet à faire beau, il faudra porter tout ça. Donc c'est tout un équilibre de poids et de confort aussi, tu vois.
On arrive en Serbie où tu t'es perdu dans les montagnes et en plus tu étais sous la neige. Heureusement, un garagiste est là pour t'ouvrir sa porte.
Et voilà, donc j'étais perdu en plein dans les montagnes en Serbie. Évidemment, il n'y a pas d'abribus ou quoi que ce soit pour pouvoir se couvrir, regarder son chemin. Donc vraiment, c'était compliqué. À un moment, je me cache sous un arbre, je me tourne derrière, il y a deux chiens qui me grondent dessus, tu vois. Genre, toi, si tu pars pas, on va te manger parce qu'on a faim nous aussi, tu vois. Et donc là, c'était un moment très compliqué. Donc je m'en sors comme je peux. Je suis un chemin, je vois un village au loin, tu vois. Et puis... Et je finis le chemin carrément en courant parce que j'étais pas assez équipé, j'avais vraiment trop froid, quoi. Je sentais mes doigts vraiment qui, je les sentais plus, justement. Et là, j'arrive devant je vais à la seule cheminée que je vois allumée. Et c'était un garagiste qui était là. Je toque même pas, j'ouvre la porte. Le garagiste me voit mais en fait, c'est ça qui est assez incroyable, c'est-à-dire que c'était un Serbe qui parlait pas un mot d'anglais. Et en fait, il a pas fallu longtemps pour qu'il comprenne ce que j'avais besoin. En même temps, j'étais congelé et j'avais froid et j'étais pas bien, tu vois. Mais toi, il s'est pas posé la question de qui j'étais, d'où je venais, qu'est-ce que je faisais. Toi, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a allumé un deuxième feu pour moi. Il m'a dit de m'asseoir devant le feu. Il m'a invité à faire sécher mes affaires. Il m'a même donné à manger. Et après, il m'a dit que je pouvais y aller quand je voulais, que j'étais le bienvenu, tu vois. Donc, c'est assez incroyable de voir, d'expérimenter ça.
Avec ce garagiste, comment tu communiques? J'imagine que tu ne parles pas le serbe.
Ouais, exactement. Alors, je ne parle pas le serbe. Bon, j'ai appris quelques mots quand même. C'était un petit peu ma philosophie et puis vraiment ma détermination, c'était de m'immerger dans la population, tu vois. Donc, j'apprenais quand même les bases. Donc, il avait compris que finalement, que j'allais marcher jusqu'à Jérusalem depuis la France. Après la langue, finalement, c'est pas une barrière. On croit que c'est une barrière, mais ça l'est pas. Ça a été vraiment une communication de cœur à cœur, de besoin à besoin, tu vois, et en toute simplicité, finalement, tu vois.
Le nouvel an orthodoxe est là et tu vas le passer au Kosovo.
Ouais, alors ça, c'est aussi un souvenir mémorable de mon chemin. C'est le nouvel an avec Don Mato, un prêtre catholique au Kosovo, un pays musulman qui était assez incroyable. Ouais. Serbie-Kosovo, on connaît un petit peu les enjeux, aussi qu'elles soient politiques ou religieuses, donc avec des Albanais musulmans et des orthodoxes serbes de l'autre côté. Et donc, il y avait ce prêtre qui était croate en plus de ça, hein, dans un petit village au Kosovo, en pleine terre musulmane, tu vois. Et c'était vraiment un prêtre au grand cœur. Et c'est là où j'ai découvert la tolérance humaine, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de jugement, il y avait vraiment de l'accueil de tous. Et j'ai dormi chez ce prêtre. Et je me rappelle pour la petite histoire qu'il était invité dans tous les villages alentours. Et donc on a été mangé dans chaque famille. Et on a fêté le nouvel an orthodoxe, en tout cas Noël orthodoxe. Et c'était assez incroyable. Voilà, t'avais ce prêtre qui allait de famille en famille, qui mangeait de plus en plus. Et je le voyais de plus en plus bourré à la fin de la soirée. Bah, c'était assez exceptionnel d'avoir cette image en plein milieu du Kosovo, ce prêtre qui était vraiment au grand cœur. Et donc, on a fait la tournée des maisons pour aller manger et faire la fête. Et c'était assez incroyable cette rencontre. Voilà, donc j'ai dormi dans la maison. Dans sa maison, à côté de l'église, en ayant été reçu comme un prince, quoi. Donc voilà, c'est des rencontres comme ça qui te laissent pas indifférente.
Tu disais là à l'instant qu'il était de plus en plus, j'ai entendu, bourré, c'est ça?
Ouais, parce qu'ils aiment bien faire la fête, les Serbes. Et donc, c'est un peu de culture et aussi de... C'est aussi un acte de politesse d'accepter et la nourriture et les boissons qu'on t'offre. Et en Serbie, je me rappelle que moi-même, j'ai pas mal été confronté au schnapps, donc leur alcool local.
Le schnapps qui est une eau de vie assez forte. Hein.
Ouais, assez forte, ouais. Qu'ils font eux-mêmes, en fait, ouais. Avec leurs moyens du bord, quoi. Donc, ils sont assez fiers de leur production. Donc, ils ont envie de te faire goûter un petit peu. Après, ça, c'est une anecdote, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut te prendre en compte quand on part marcher aussi, qui a été peut-être un peu difficile par moment pour moi aussi.
Parce que quand on se réveille le lendemain avec un petit mal de tête avant d'aller marcher, ça ne doit pas être très agréable.
Non, c'est pas agréable du tout. Après la marche, ça fait beaucoup de bien aussi. Donc,
Tout à l'heure, on était en Serbie, perdu dans les montagnes avec toi, sous la neige. Il y avait des chiens qui étaient là et qui grognaient. Les chiens, tu vas les avoir tout au long de ton parcours. La preuve, en Grèce, tu es à nouveau confronté à une meute de chiens.
C'est vrai que les chiens ont fait partie intégrante de mon voyage. J'en avais beaucoup peur au début. On m'en parlait beaucoup parce qu'on n'en a pas chez nous en France, en Suisse, en Autriche.
Des chiens errants.
Ouais, c'est des chiens errants, ouais. On n'en a pas chez nous. À partir des Balkans, de la Grèce, il y en a pas mal. En Grèce, je me suis fait attaquer par une meute de chiens, ouais. Ça, c'était pas cool. Surtout que c'était aussi une fois où je me suis perdu dans les montagnes, encore une fois, malheureusement, sous la pluie. C'était moins gênant parce qu'il faisait moins froid, mais à l'entrée du village, voilà, il y avait cette meute de chiens qui m'a attaqué.
Tu parles de meute de chiens, il y en avait combien à peu près?
Oh, il y en avait plus d'une dizaine, ouais, presque une quinzaine, je pense.
Et c'était donc des chiens errants?
Ouais, c'est des chiens errants. Alors, à savoir que, ouais, ils vivent en meute. Ça dépend des pays, en fait. Si tu veux, en Grèce, bizarrement, c'est vraiment des gros chiens qui vivent en meute. Et il y a eu des problèmes avec ces chiens-là parce que c'est des chiens agressifs. Et puis, faut bien qu'ils se trouvent à de quoi se nourrir aussi, quoi, tu vois. Donc, c'est un petit peu problématique, ouais.
Qu'est-ce que tu as fait pour faire en sorte qu'ils ne te mordent pas? Ils sont 10, il y avait quand même une grosse, grosse probabilité qu'ils te mordent, au moins l'un d'eux.
Ouais, bah écoute, c'est ça qui est assez incroyable quand tu marches et quand tu... et c'est pour ça aussi que je prends beaucoup la marche aujourd'hui, parce qu'on se dépasse, on arrive à retrouver cet instinct de survie qui est en nous, tu vois, presque animal finalement, tu vois. Et donc, on se défend, on donne des coups de bâton, on part en courant, on se débat, quoi, tu vois. Et si je me laisse faire, ça va être fini pour moi, tu vois. Donc, il y a cette espèce d'instinct primaire qui ressort et qui est assez incroyable en tant qu'être humain, qu'on oublie dans notre société un petit peu contemporaine, sédentaire, tu vois. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile, ce qui est très bien, hein, il n'y a pas de jugement de valeur, mais c'est un peu plus facile de trouver à manger, de chauffer, tout ça, alors que quand on revient à cet instinct primaire presque animal, on revient aussi à notre essence, tu vois, d'être humain.
On arrive enfin en Turquie, et là on va faire de belles rencontres avec des imams sur place.
Ouais, alors là, la Turquie, pour moi, ça a été un exemple de tolérance et d'accueil. Vraiment, je reste impressionné par les Turcs, les musulmans et leur gentillesse. C'est-à-dire que j'étais vraiment invité souvent dans les mosquées, dans les maisons. Et dormir dans une mosquée, d'être accueilli comme ça par un imam, c'est une expérience aussi que je souhaite à tout le monde, parce que finalement, on connaît très peu de leur religion. Et ils connaissent beaucoup sur la nôtre, et donc c'est un message aussi de tolérance de beaucoup d'imams d'accueillir l'étranger, pas du tout musulman, hein. Moi je disais pas que j'étais musulman, hein. Ils me montraient leur accueil et leur bienveillance, et par le fait de m'accueillir dans leur mosquée, en disant que c'était la mosquée ils appelaient ça la maison de Dieu, qui était à tout le monde, quelle que soit la religion, et ça c'était un beau message aussi de tolérance que j'ai reçu de la part de ces imams là, quoi.
Il y a eu ces rencontres plutôt joyeuses avec ces imams qui t'ont bien accueilli. Il y a eu des rencontres un peu moins joyeuses.
C'est vrai, j'ai fait une rencontre un peu moins joyeuse, et ce n'était pas des imams. Enfin, je ne crois pas. Il y a eu une rencontre moins joyeuse où on a voulu tout simplement me dépouiller, quoi, en plein milieu de la Turquie. Et donc, en fait, je sortais d'un village, et si tu veux, mon intuition, je me disais, mais je ne le sentais pas trop par là, tu vois. Je sentais qu'il fallait pas trop que j'aille, mais je m'écoute pas, parce que dans tous les cas, il faut que je fasse un détour de 10 km, 10 km sur une journée de de 20, ça commence à faire beaucoup déjà. Et donc j'y vais, je m'écoute pas et je continue 3-4 kilomètres et il y a un gars qui m'arrête et qui me dit bah, « Attends, fais demi-tour, là-bas il y a des chiens errants, tu vois. » Bon, vous avez compris que les chiens errants, je les avais un petit peu côtoyés et bon, j'avais un petit peu l'habitude et ça me faisait plus trop peur. Mais je me dis, bon allez, cette fois c'est un peu le signe du destin, c'est le message de l'univers, il faut l'écouter quoi. Et donc je fais demi-tour et 500 mètres avant d'arriver au village précédent, donc il y a ces deux personnes là, qui essayent de me voler mes sous et finalement je m'en suis bien sorti parce que 4 kilomètres loin du village, c'est long pour rentrer au village. Et ce qui m'a sauvé, c'est vraiment de retourner au village et de voir d'autres personnes. Et ils m'ont laissé tranquille, tu vois. Mais si t'es tout seul au milieu de la nature, je pense que ça aurait été peut-être moins évident pour moi. Je m'en serais moins sorti parce qu'ils étaient quand même assez coriaces. Et là, encore une fois, j'ai aussi dû sortir mon instinct de survie, tu vois. Je me laisse pas faire, quoi.
Mais parce que les deux gars, ils étaient là et ils t'agressaient physiquement ou oralement, quoi.
Ouais, exactement. Ouais. Ben physiquement, ils me poussaient, ils mettaient les mains dans mes poches pour voir si j'avais des trucs, tu vois.
Tu marchais, eux, ils te suivaient, ils te mettaient les mains dans les poches.
Voilà, exactement. Ouais. Exactement, jusqu'à ce que j'arrive dans le centre du village, quoi. Et là, ils sont repartis parce que il y avait d'autres gens, quoi.
La suite se fait avec le père Raffaello. On est au Mont Nebo. C'est où le Mont Nebo ?
Alors, c'est en Jordanie. Donc là, on est déjà arrivé en Jordanie. Et c'est juste après Amman.
C'est qui ce père Raffaello ?
Eh ben, écoute, c'est un père moi qui m'a vraiment marqué. Si tu veux, j'arrive. Donc, à savoir que c'est le Mont Nebo. Donc, c'est un mont quoi, qui est quand même assez sacré dans la religion. Et donc il y a un monastère là-bas et il y a ce prêtre, ça fait des années qu'il est dans ce monastère en Jordanie et moi ce qui m'a frappé chez ce prêtre, c'est sa résilience, tu vois. Il me disait toujours bah c'est comme ça, c'est la vie, et en fait je me suis vite rendu compte qu'il aimait pas trop la Jordanie, ce père, et il faisait ça vraiment par conviction, par foi, parce que c'était sa mission de vie en fait, c'était d'être dans ce monastère, sur ce mont sacré, tu vois, et il y avait cette résilience, cette acceptation de la vie qui m'a vraiment marqué. Et il était tout seul, hein. Attends, il était tout seul, il venait d'Italie, et j'ai vite compris que son truc c'était pas la Jordanie, lui son rêve c'était d'aller à Jérusalem. Et vraiment, encore une fois, ce qui a façonné mon chemin, c'est les rencontres. Et cette personne, la première chose qu'il m'a dit quand je suis arrivé, il m'a pas demandé si je voulais rester. Il m'a dit, tu restes combien de temps? Tu vois, c'est ça qui est incroyable. J'aurais pu dire 2 ans si je voulais, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Et il m'a frappé. Et quand je suis arrivé, il m'a dit, tu verras, il y aura une surprise ce soir. Et c'est ça aussi qui a été assez incroyable. Du coup, on dîne, il me fait à manger, il m'invite. Et après, on va se poser dehors et il me dit, tiens, regarde là-bas. Et je voyais plein de lumières, tu vois, comme une ville. Et il me dit, tu vois, là, c'est les lumières de Jérusalem. Et donc, en gros, t'es arrivé, quoi. Et donc, ça a été vraiment une rencontre incroyable. Et aussi presque la fin de mon chemin, parce que j'étais à plus qu'à quelques jours de marche, quoi.
Quand tu vois les lumières de Jérusalem comme ça, éclairées le soir, qu'est-ce que tu penses, quoi?
Tu te dis, ça y est, je suis arrivé. T'as énormément de gratitude d'être arrivé jusqu'ici, tu vois, d'avoir pu marcher tout ça. Et tu te dis, mais c'est un rêve fou qui était presque improbable. Et en fait, tu l'as fait, presque, t'es arrivé, quoi. Donc, c'est dingue. Après, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est vrai que c'est pas la destination qui est importante, c'est le chemin. Parce que si j'avais choisi autre chose, j'aurais vécu un autre chemin, j'aurais rencontré d'autres personnes, j'aurais fait d'autres pays. Et en fait, cette destination m'a permis de vivre le chemin qui a été incroyable avec toutes ces rencontres.
Merci Alexandre pour ce récit de cette marche qui a duré 14 mois, seul, 6000 km à travers 10 pays depuis le Puy-en-Velay en France jusqu'à Jérusalem. Merci pour ce récit et puis à bientôt pour de nouvelles aventures au micro des aventuriers.
Eh bien écoute, merci à toi Florent, ça m'a fait plaisir d'être ici.
Vous aussi, vous êtes une aventurière, un aventurier, vous souhaitez venir nous raconter votre récit, n'hésitez pas à le faire, vous nous envoyez un petit message sur contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.
Les aventuriers. un podcast de La Fabrique Audio en partenariat avec TV5 Monde. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site Voyage de TV5 Monde, voyage.tv5monde.com. Et pour plus de podcasts, lafabriqueaudio.com. Vous avez une aventure à nous proposer? Une destination à nous faire découvrir? Contact @lafabriqueaudio.com.
lafabriqueaudio.com.